4. Manier l'art de la question. L'idée même d'utiliser la question dans le cadre compétitif pourrait paraître saugrenue. Le plus souvent, dans un débat, nous devrons nous démener pour avoir le temps de présenter nos arguments. Or, interroger, cela revient précisément à rendre la parole. En invitant notre interlocuteur à nous répondre, nous lui donnons une nouvelle occasion d'étayer sa position. Est-ce là ce que nous souhaitons? Évidemment pas, et il nous faudra toujours être prudents avant de terminer notre phrase par un point d'interrogation. Bien utilisé pourtant, ce procédé peut devenir une arme redoutable. Il est au cœur d'une authentique stratégie de débat, l'attaque par questionnement. Elle consiste, avant d'avancer nos propres arguments, à tenter de briser la ligne adverse. Nous posons une série de questions à l'interlocuteur dans l'objectif de révéler les faiblesses de sa position. Parfois, les brèches apparaîtront d'elles-mêmes. Il se révélera incapable d'apporter une preuve, de fournir une précision ou de citer un exemple. Voire mieux, il commettra une véritable erreur en proférant une énormité. Mais la plupart du temps, ce sera à nous qu'il reviendra de créer cette faille en mettant en lumière une contradiction. Au fil de nos interrogations, nous explorons les différentes ramifications de sa pensée jusqu'à trouver deux énoncés qui ne peuvent être soutenus en même temps. Nous dénonçons alors vertement l'incohérence et poussons notre avantage. Notons que cette stratégie est incroyablement risquée cependant. Si elle échoue, si nous ne parvenons pas à percer les défenses, nous aurons gaspillé de précieuses minutes en donnant à l'adversaire tout le loisir de faire valoir ses arguments. Étude de cas. Député de la majorité, je participe à un débat télévisé sur une chaîne d'information. Face à moi, un représentant de l'opposition m'attaque sur la réforme de la fiscalité qui vient d'être déposée par le gouvernement. Peu connaisseur du dossier, je sais que je risque d'être rapidement à court d'informations. Je décide donc d'adopter une posture de questionnement. « Vous n'aviez jamais parlé de cette réforme pendant la campagne, » me dit mon adversaire. « La sortir de votre chapeau à seulement un an de l'élection présidentielle, c'est de l'abus de pouvoir !» Sauf que, entre-temps, je vous rappelle que nous avons connu une crise économique mondiale. Vous préférez attendre, laisser les déficits se creuser et léguer une dette encore plus importante à nos enfants ? Mais le problème, c'est que votre réforme est injuste. Elle va créer encore plus d'inégalités. Je ne suis pas d'accord, mais surtout, je trouve la critique un peu facile. Vous ne cessez de vous opposer. N'avez-vous donc rien à proposer? Mais si, nous venons justement de déposer un contre-projet à l'Assemblée. Mais vous refusez qu'il vienne en discussion. Si vous étiez courageux, vous accepteriez le débat. Et ce projet, faisait-il partie de votre programme lors de la dernière élection ? Non, mais... Et voilà. Vous nous reprochez de défendre un projet qui n'était pas dans notre programme, alors que vous faites exactement la même chose. Mais je ne suis pas surpris. Comme à votre habitude, vous n'êtes jamais content. Tout ce que vous savez faire, c'est râler. Pendant ce temps, nous agissons au service des Français. Décryptage. À l'instant où nous voyons une brèche s'ouvrir chez notre adversaire, nous devons nous empresser d'y porter le fer. Ne lui laissons pas le temps de reprendre ses esprits, il pourrait trouver un moyen de lever l'incohérence. Notons par ailleurs que, dans cet exemple, tout est parti d'une question avec présupposé. Vous préférez attendre et léguer une dette plus importante encore à nos enfants ? Ce n'est pas un hasard. Comme nous l'avons vu plus tôt, elles sont des outils de choix si nous désirons placer un contradicteur dans l'embarras. Remarquons enfin que, ici, nous avons choisi de porter une attaque brutale. Elle est à la hauteur de notre incapacité à défendre notre position sur le fond. Au quotidien, lorsque nous utilisons cette stratégie, nous n'avons pas nécessairement besoin de la prolonger par une telle disqualification. nous pouvons nous contenter de mettre en lumière la faille, puis d'enchaîner en développant nos propres arguments. Ils sembleront, par contraste, d'autant plus pertinents. Il est également possible d'employer, au cours d'un débat, l'interrogative d'une manière beaucoup plus rudimentaire, sous la forme d'une question directe. Le principe est simple, nous mettons notre adversaire au défi de répondre à une question précise, factuelle, posée sans détour. Ce faisant, nous ne cherchons pas à lui redonner la parole, mais au contraire à révéler son ignorance. Par exemple, dans un contexte politique, vous parlez beaucoup de l'accroissement de la précarité. Savez-vous au moins à combien se chiffre le seuil de pauvreté en France ? Ou alors, pour répondre à notre adolescent en plein rejet de l'autorité, « Tu m'accuses d'être un dictateur, soit, est-ce que tu es au moins capable de me donner la définition d'une dictature ?» Et bien sûr, ce classique des interviews, « Vous évoquez la hausse du coût de la vie, est-ce que vous sauriez me donner le prix d'un croissant dans une boulangerie ?» Cette tactique est dévastatrice en ce qu'elle n'a presque que des issues positives. Si notre interlocuteur ne sait pas répondre, il passera pour un sot. Sa crédibilité s'effondrera aussitôt. Mais quand bien même il en serait capable, sa situation serait à peine meilleure. Aux yeux des auditeurs, il passera pour celui qui accepte docilement de répondre à une interrogation. Autant dire, l'élève face à son professeur. Loin de s'être tiré d'un mauvais pas, sur le plan de l'éthos, il reste dominé. De notre point de vue, le procédé est d'autant plus tentant qu'il se révèle peu risqué. Il faut simplement prendre garde, si nous y avons recours, à ce qu'il ne vienne pas s'ajouter à une image déjà trop professorale. Nous pourrions alors avoir l'air pédant et vaniteux, c'est nous qui en ressortirions éraflés. Si nous sommes victimes d'une question directe, il n'existe qu'une véritable issue au piège tendu, refuser de répondre. Par exemple, en retournant simplement la question. Sans laisser paraître une once d'hésitation, nous répliquons sur le champ. « Eh bien, allez-y, dites-le, vous, puisque vous avez la parole. » Nous pouvons également choisir de dévoiler puis dénoncer le procédé. La tactique, hélas, est bien connue. Il va donc falloir y mettre du panache si nous ne voulons pas qu'elle paraisse éculée. Pardonnez-moi, cher ami, mais je n'aime pas ces manières. Nous ne sommes pas dans une salle de classe. Vous n'êtes pas un professeur. Redescendez donc de votre arrogance. Si nous connaissons la réponse à sa question, nous pouvons désormais la mentionner le plus brièvement possible, peut-être même avec un brin de dédain. Quant au seuil de pauvreté, vous apprendrez qu'il oscille en France entre 1000 et 1100 euros. Dans tous les cas, nous n'épiloguons pas et enchaînons immédiatement. Par ailleurs, j'aimerais préciser une chose. La question, on le voit, est bien une arme du débat, mais elle doit être employée de manière stratégique. Si nous nous contentons de jeter une interrogation en l'air, faute de savoir développer nos arguments, nous ne ferons que donner à notre adversaire une nouvelle occasion de prendre l'ascendant. 5. Jeter le doute sur l'interlocuteur. La calomnie, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Basile, le valet roublard imaginé par Beaumarchais, parle vrai. Lors d'un débat, nous l'avons vu, la confrontation des ethos prend une place majeure. Si la possibilité nous est offerte, nous ne devrons pas hésiter à menacer l'image de notre interlocuteur. Parmi les nombreuses stratégies permettant d'y parvenir, l'une des plus redoutables, c'est l'empoisonnement du puits. Elle consiste à laisser filtrer, dès le début de la confrontation, des informations qui dégraderont la crédibilité de notre adversaire. Ces accusations peuvent être véridiques comme mensongères. Dorénavant, tout ce qu'il dira sera frappé du sceau du soupçon. Plus la manœuvre est implicite, discrète, insidieuse, et plus il devient délicat de s'en protéger. Étude de cas. Je suis un médecin spécialiste des épidémies. En plein milieu de la crise du coronavirus, j'ai été invité sur un plateau pour commenter la politique sanitaire du gouvernement. Face à moi se trouve un virologue avec lequel je sais être en grand désaccord. Par ailleurs, je me doute bien que, comme nombre de nos confrères, il a dû collaborer occasionnellement avec l'industrie pharmaceutique. Je vais utiliser cela dans le débat. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je n'ai jamais travaillé avec aucun laboratoire. Je n'ai donc aucun conflit d'intérêts. Et vous, mon cher collègue ? Il hésite et bredouille. Alors, si, j'ai contribué à une ou deux études il y a quelques années, mais cela n'a rien à voir avec ce dont nous discutons aujourd'hui. Il a raison, bien sûr. Je sais que des partenariats ponctuels ne biaisent pas nécessairement son jugement. Mais sa gêne est palpable, et le visage du présentateur, dubitatif, je viens de marquer un point décisif. Décryptage. L'empoisonnement du puits est, on le voit, un procédé destructeur. Si nous en sommes la cible, nous ne pourrons pas laisser le doute s'instiller, il dévaluerait notre argumentation dans son intégralité. Nous n'aurons pas le choix, il faudra prendre le temps de déconstruire l'insinuation, quitte à y abandonner de longues minutes. La technique est d'autant plus désagréable que, du point de vue de son utilisateur, le risque est assez faible, mais pas inexistant. Si nous désirons l'employer et que nous sommes face à un interlocuteur talentueux, il pourrait bien parvenir à révéler ce que la manœuvre a d'odieux. Nous passerions alors pour l'agresseur, c'est notre propre éthos qui en ressortirait endommagé. Par ailleurs, et surtout, ce que nous mettons en danger avec un tel procédé, c'est notre réputation. À rechercher la victoire par le discrédit, nous serons vite considérés comme un contradicteur désagréable, voire déloyal, dont il vaut mieux se tenir éloigné. Or, la vie est longue et nos mondes sont petits. À force de nous faire des ennemis, nous y perdrons des opportunités. Sur le long terme, il n'est pas certain que nous tirions avantage de la brutalité. 6. S'imposer avec force. Terminons en mentionnant simplement une dernière stratégie d'attaque. Nous avons eu l'occasion de souligner, bien plus tôt, combien il est crucial pour les oratrices et les orateurs de savoir s'imposer avec force. Plus nous nous affirmons et plus nous parvenons à triompher des réticences. Cela, évidemment, est d'autant plus vrai dans le cadre du débat contradictoire. Si nous déployons une pensée criblée d'incertitudes, de doutes et de micro-concessions, alors que notre adversaire présente, lui, une argumentation monolithique et conquérante, il y a peu de chances que nous prenions le dessus. Les auditeurs tendront à considérer que le bretteur le plus convaincant, c'est celui qui semble le plus convaincu. Hélas, du point de vue du débat public, cette remarque entraîne des conséquences tragiques. Elle explique que les débats contradictoires aient tendance à écraser les subtilités et les nuances. Pour se résumer à une lutte homérique entre deux adversaires, l'un radicalement pour, l'autre catégoriquement contre. Si, d'aventure, nous nous trouvons face à un interlocuteur plus pondéré, nous pourrons nous permettre d'adopter un ton plus retenu. En revanche, si nous rencontrons une adversité sans bornes, nous n'aurons guère le choix. Pour convaincre, nous risquons d'avoir à rendre coup pour coup en prenant une position très dure, et tant pis pour la mesure.